Vous voyez que frère est pris dans un autre sens.
Même sang.
Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. Il pourrait prendre lui une partie et donner le reste à l'autre. Non, il lui laisse le choix. Commence, fais ton choix. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était partout irriguée. C'était avant que le Seigneur ne détruisît Sodome et Gomorre. Il faut tout le temps les repères, évidemment. Hein. On n'a pas encore parlé de Sodome et Gomorre. C'est devenu un territoire salé. Donc c'est avant. Tout était magnifique. Comme l'enfant là, qui a dessiné dans le réfectoire, Lot et Abraham qui se séparent. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était partout irriguée. C'était avant que le Seigneur ne détruisît Sodome et Gomorre. Comme le jardin du Seigneur. Tiens, on retourne en Éden. Comme le pays d'Égypte. Donc ce sont des comparaisons. C'était un pays inimaginable. Et de fait, hein, c'est toute la région de Jéricho qui était une région très fertile. Et c'est de là que dixième millénaire avant Jésus-Christ, c'est de là qu'est partie, c'est une des villes les plus anciennes du monde, c'est de là qu'est partie la civilisation de villes citadines, entre autres. Il y a trois villes, une en Turquie actuelle, une en Syrie et Jéricho, les trois plus anciennes villes du monde, semble-t-il. 9e, 10e millénaire avant Jésus-Christ. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il émigra à l'Orient, c'est-à-dire ce qui est fertile. Il choisit le fertile. On lui laisse le choix, hein? Il émigra à l'Orient. À l'Orient d'Éden. Caïn va aussi à l'Orient. C'est une sorte de connotation un peu pessimiste. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'établit au pays de Canaan. Et Lot s'établit dans les villes de la plaine. Le pays de Canaan, c'est plutôt sur la montagne, où le sol est beaucoup moins fécond. Il n'y a pas de fleuve, comme le Jourdain. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Abraham s'établit au pays de Canaan et Lot s'établit dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome, jusqu'au sud. Alors, petite parenthèse, les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre le Seigneur. Voilà un jugement plus rapide, semble-t-il, mais enfin, nous allons voir que c'est pas tout à fait faux, cette affaire. Les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre le Seigneur. On ne dit pas encore d'autre. En quoi il péchait. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Tiens, cette fois-ci, on a ajouté toi. À toi et à ta postérité, pour toujours. Ça, c'est énorme. Pour toujours. C'est d'ailleurs un des textes sur lesquels les Israéliens, extrémistes, qui veulent garder toute la terre, se basent pour dire que le pays a été donné pour toujours et qu'ils n'ont pas à le partager avec les Palestiniens. Mais on pourrait aussi prendre de la graine dans le choix qu'Abraham fait. Il laisse d'abord le choix aux autres. Au lieu de prendre seulement... Enfin, au lieu de laisser aux autres une petite partie, 40% des territoires occupés, faudrait quand même lui laisser le choix des bonnes terres. On prend tout, l'eau avec surtout. Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour tout.
C'est toujours le désir qui est considéré comme promesse. Comment il sait tout ça, Abraham ?
Il n'a pas entendu de téléphone rouge, pourtant. Je rendrai ta postérité. C'est tout le temps ta postérité. Bon, il a récupéré sa femme, c'est déjà une chose. Mais enfin, elle est stérile. Et on nous fait languir. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. Ça, ça va loin, hein? Il avait parlé, en toi se béniront toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre plutôt. Et ici, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. Debout. Parcours le pays de long en large. Il l'a déjà fait une première fois. Et maintenant, il a pris le territoire que Lot lui laissait. Il faut qu'il le parcourt de long en large. Car je te le donnerai. Je te le donnerai. Avec ses tentes, Abraham allait s'établir au chêne de Mambré. Tiens, on a déjà vu tout à l'heure. On a vu le chêne de Moré tout à l'heure. Maintenant, c'est le chêne de Mambré. Le chêne de Moré est au nord. Le chêne de Mambré est au sud. Mais vous avez des deux côtés un chêne, c'est-à-dire un endroit sacré, qui est à Hébron.
Hébron.
Le pays du compagnon. Hébron. Et là, il érigea un autel au Seigneur. Abraham est important, vous voyez, aussi bien pour le juif que pour le musulman. Nous allons voir pourquoi d'ailleurs. Mais Hébron est intéressant. Là, il érigea un autel au Seigneur. Pourquoi il nous parle comme ça, l'auteur?
Vous voyez, ce qu'il veut mettre en évidence, c'est la générosité d'Abraham.
Il veut sauver sa vie, c'est bien clair. Il demande à sa femme de se sacrifier. Il est riche, mais il ne garde pas ses richesses pour lui. Il voit bien que c'est impossible de vivre ensemble, la cohabitation est difficile, il y a des disputes.
Mais pour les Français, ça...
Et pour les Belges, c'est... Je connais Flamands et Wallons.
Et les Allemands ménagent à trois.
Surtout si tu prends la gauche et la droite, tu vois le Chirac là-bas. Si tu prends la droite, tu iras à gauche.
Sont tous au centre. Émile, sont tous au centre.
Mais,
4 heures approchent.
Je sais.
Non, je ne goûte jamais.
Vous voyez, pourquoi raconter cette histoire? Qu'est-ce que c'est que le choix d'une terre?
S'il laisse à Lot le choix, Lot va prendre le meilleur, c'est ce qu'il fait. Mais il lui laisse le choix. Donc, vous voyez, ce texte, d'où vient-il? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il correspond à une réalité? Finalement, oui, correspond probablement à une réalité de tribus qui se sont installées dans la région du Jourdain, d'une part, qui était la région la plus fertile, et d'autres qui se sont installées dans la montagne de Juda, qui est la région la moins fertile. Enfin, c'est une histoire de fête. Mais on met ce choix dans la bouche d'Abraham, choix qu'il laisse à Lot. Quelle est notre capacité de laisser le choix à l'autre? Finalement, c'est ça. Ou bien sommes-nous, dépêchons-nous de prendre notre place, ne fût-ce que ici,
Remplacement.
Et ma place a été donnée, je ne l'ai pas prise.
Réservée.
Mais voyez, ça nous fait réfléchir sur toutes ces réalités-là. Là, une place, qu'est-ce que c'est? Sa place au soleil. Ma propriété.
Et madame.
Pourquoi Dieu lui dit, lève les yeux et regarde l'endroit où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident, donc il est vraiment au centre, là. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vous aurez la même promesse à la fin du Deutéronome, lorsque Dieu prendra Moïse et lui dira, regarde, voilà tout le pays, du nord au sud, est ou est, tu n'y entreras pas.
Il a vu de loin, comme dit l'Épître aussi.
C'est ça, de loin. Il a vu de loin. Notre difficulté de voir les choses de loin. Nous voulons les avoir au bout de nos doigts. Nous les possédons. Mais laissons à l'autre la possession. Si je laisse à l'autre la possession, je suis doublement gratifié d'avoir laissé le choix à l'autre et de recevoir la joie de l'autre. Mais nous voulons notre joie pour nous. Et comme la jalousie s'insinue toujours. Et la jalousie, voyons bien ici, c'est, la jalousie est sujet d'agressivité et finalement de bagarre. J'introduis le venin. Différentes manières d'introduire le mal dans la réalité que nous vivons, et en même temps, vous voyez bien, il y a moyen d'introduire le bien aussi. Il y a du mal qui est dit d'Abraham, enfin c'était quand même pour sauver sa peau. Et ici, il y a du bien. Il laisse le choix.
Généralement, dans la Bible, c'est par les petits que le bien vient. Ici, c'est par les grands.
C'est le grand.
Et Pharaon, et Abraham, et Lot.
Oui, oui. Oui. Et c'est le début, hein. Ça ne peut venir que par ceux qui sont là. On verra après, avec les petits. Les petits vont venir après. On commence d'abord par établir le personnage d'Abraham. Nous allons nous arrêter ici. Il a passé 4 heures maintenant. Le point de suspension dans le texte. Vous comprenez bien que les différentes traditions, qu'elles soient juives ou musulmanes, ont essayé de remplir les vides. Et c'est comme ça que vous avez du côté juif des midrashim, c'est-à-dire des légendes qui se sont superposées au texte de la Bible, et vous avez pareillement dans le Coran. Et alors, je vais vous en donner quelques exemples. Dans la tradition juive, on se pose une question à propos du premier mot. Le Seigneur dit à Abraham, comment ce gars-là a-t-il eu la connaissance de Dieu, du Dieu unique, puisqu'on dit le Seigneur. Alors il y a différentes traditions. Il y a une tradition qui vous dit, mais à quel âge ça s'est passé? Quand est-ce qu'il a eu cette connaissance? Et les uns, certaines traditions juives, disent, mais c'est à l'âge d'un an.
D'un an.
Ah oui, il avait un an, Abraham, et il a découvert de façon intuitive, il s'est révélé, Dieu s'est révélé à lui directement par un contact immédiat et total, connaissance immédiate de Dieu. Et qu'il n'a jamais mis en doute. Voilà une première manière de se représenter les choses. D'autres disent, une autre tradition, vous savez qu'il n'y a jamais une seule tradition dans le judaïsme, il y en a toujours plusieurs. Un autre dit, mais non, c'est à 3 ans. Parce que 3 ans, c'est l'âge où on fait un saut et on devient quelqu'un. Donc il se révèle, à 3 ans, on a déjà commencé à vivre dans une famille et donc on est déjà, on reçoit déjà toute une tradition. Bon, donc à l'âge de 3 ans, donc il a tenu ça de ses parents. Ah non, ça vient comme ça. Mais c'est déjà à partir de certaines éducations. Il y a des symboles religieux, il y a un milieu familial porteur, et donc c'est une invitation à entrer dans une communauté de prière. Un an. 3 ans. Notre tradition dit non, c'est à 40 ans.
C'est déjà un peu mieux.
C'est un peu mieux. 40 ans, c'est l'âge d'une expérience. Oui. Toujours 40, quand on dit 40, 40 jours, 40 ans, toujours une expérience de vie, une expérience spirituelle, hein, une expérience, et qui manifeste un itinéraire pénible, des recherches, des tâtonnements. Et ici, vous savez, il a déjà 75 ans, hein. Ouais, c'est déjà un homme avancé en âge, pourtant il est encore tout jeune, semble-t-il. Et donc c'est un homme qui a dû lutter contre un climat idolâtre. Et alors, on se fabrique toutes sortes d'images pour expliquer ça. Comment est-ce qu'il est passé de l'idolâtrie au vrai Dieu? Ah, Terach, son père, était un fabricant d'idoles. Dans un pays où on fabrique des idoles. Et le petit Abraham, hein, tout jeune encore, qu'il ait un an, qu'il ait 3 ans, qu'il en ait 6, peu importe, il se promenait dans l'atelier de son père et il se demandait, mais qui est Dieu pour que tu le fabriques? Est-ce qu'on peut fabriquer son Dieu? Ou bien est-ce que c'est Dieu qui nous fabrique? Vous voyez, il se posait déjà la question métaphysique, tout jeune. Qui est finalement Dieu? Et alors un beau jour, raconte, tout ça ce sont des histoires juives, hein, qu'on raconte, un beau jour, voilà que le papa entre dans son atelier, et il trouve le petit Abraham, là, assis par terre au milieu de débris de statues.
Comme Jésus au milieu des docteurs de la loi.
Peut-être, je ne sais pas s'il a démoli le docteur de la loi.
Ils se sont vengés après.
Ah, ils sont vengés après. En tout cas, voilà. Et alors, il avait laissé la plus grande de toutes les statues, il l'avait laissé intacte, toutes les autres, et les avait cassées en morceaux. Alors, qu'est-ce qui a fait ça? C'est le Dieu. Le plus fort. Il était furieux d'avoir d'autres dieux en concurrence avec lui, et il les a tous massacrés. Donc, vous voyez, on raconte toutes sortes d'histoires comme cela, hein, il y en a encore des quantités, pour dire qu'il y a eu avec Abraham une sorte de passage au Dieu unique. Attention, hein, quand nous disons Dieu unique, pour Abraham, ce n'est pas encore le monothéisme au sens strict. Le Dieu unique, il n'y en a qu'un. C'est le Dieu unique pour Abraham. C'est encore le Dieu du clan, le Dieu de la famille, le Dieu de la personne et de la vie. Ça commence d'ailleurs toujours comme ça avec un enfant. Un enfant commence par avoir une première idée de son Dieu. Et dans la mesure où il aura une relation profonde avec ses parents ou avec quelqu'un d'autre, il pourra avoir une relation profonde avec Dieu aussi. Ça commence comme ça. C'est d'abord mon Dieu. C'est d'abord mon Dieu avant de devenir le Dieu unique, le Dieu de toute la terre. Il y a tout un itinéraire, tout un chemin qui se fait pour l'enfant aussi. Et je crois bien que le Dieu d'Abraham, c'est vraiment cette première révélation de Dieu qui peut se faire. Bon, parfois c'est un enfant, parfois c'est plus c'est un âge plus avancé, peu importe. Mais on arrive petit à petit à des perceptions diverses de Dieu. Dieu qui tout d'un coup se révèle au milieu d'un chemin que l'on fait, à un endroit déterminé comme ici, à un moment, un espace de vie où il y a une réflexion plus profonde ou un choc plus grand dans ce qu'on vit. Et là, il y a souvent, en même temps qu'une expérience humaine, il y a une expérience vraiment profonde. On plonge au fond de son être. Et le Dieu des patriarches, et le Dieu de Moïse, et le Dieu de David, et le Dieu des prophètes, et le Dieu des sages, bon, bien sûr, puisqu'il n'y en a qu'un, finalement la Bible en a fait l'épopée du seul et même Dieu, mais ça s'est découvert dans un pas à pas. Et il ne faut pas nous étonner si cette découverte pas à pas, avec tantôt des choses brillantes et tantôt des échecs, si ça se réalise encore aujourd'hui, soit dans la vie d'un enfant, soit dans la vie d'un adulte. C'est un chemin.
Bien sûr que la moralité de cette époque-là n'est pas la moralité évangélique. Donc, il ne faut pas rechercher du prêt-à-porter chrétien dans Abraham, hein, même si c'est saint Abraham. Non, c'est un homme qui réalise un peu toutes les virtualités que nous trouvons dans nos sociétés. Et on ne vous dit pas que tout est moral et qu'il faut l'imiter. On vous dit que c'est un objet de réflexion. Et je vais vous donner un texte qui vous marque ce qu'on en dit dans le Coran. Mais ça se base sur un passage qui vous a peut-être échappé, au chapitre 10 de la Genèse, où lorsqu'on dit, on parle du peuplement de la terre, les différents fils de Noé, qui sont aussi des pères de civilisation. On vous parle des fils de Japheth, de Japheth d'abord, puis les fils de Cam. On parle de Cush, c'est l'Éthiopie, de Mitzraïm, c'est l'Égypte, de Pout, c'est encore plus loin, de Canaan, etc. Et on vous donne des territoires. C'est de la géographie. Et la géographie semble venir d'un même personnage. Nous ne nous y trompons pas. C'est une ère géographique qui est établie. Bon, voici les Chamites, ce sont tous ceux qui habitent l'Afrique. Les Japhétites, ce sont tous ceux qui habitent l'Occident, c'est-à-dire l'Europe. Et les Sémites, ceux qui habitent le Proche-Orient. Et on en fait comme des familles. C'est une manière d'exprimer les choses. Cush, qui signifie l'Éthiopie, engendra Nemrod, un personnage mythique de Mésopotamie, Nemrod, qui fut le premier potentat sur la terre. C'est devenu une figure légendaire, peut-être à partir d'une réalité comme Abraham, qui fut le premier potentat sur la terre, c'était un vaillant chasseur devant le Seigneur. Et c'est pourquoi l'on dit, on explique simplement un proverbe, comme Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. Quand on voit un bon chasseur, là on dit c'est comme un Nemrod. Les prémices de son empire furent Babel, Erech et Akkad, c'est-à-dire le territoire de Mésopotamie. Babel, qui sont venus beaucoup après, Erech et Akkad, villes qui sont toutes au pays de Shinar. Shinar, c'est la Mésopotamie. De ce pays sortit Ashur, la Syrie, qui bâtit Ninive, vous voyez, on en fait des personnages, Rehovot-Ir, qui veut dire les villes, Kala, qui veut dire vraisemblablement la fiancée, et Resen, entre Ninive et Kala, c'est la grande ville. Donc c'est une situation de la géographie, à quelle époque, c'est très difficile à dire, probablement à l'époque royale. Et le Coran parle aussi de Nemrod, et ça ne se trouve pas du tout dans la Bible, et de l'affrontement qu'il y a eu entre Abraham, Ibrahim, dans la tradition coranique, Ibrahim et Nemrod. Le texte le plus important concernant Nemrod se trouve dans les Histoires des prophètes, qui est un texte musulman. L'essentiel de ces histoires réside en ceci. Nemrod est le petit-fils de Cush, je viens de vous lire le passage du chapitre 10. Après sa naissance, on voit en lui un signe maléfique. Aussi sa mère le jette-t-elle dans le fleuve avec l'espoir qu'il se noie. L'enfant dans le fleuve. C'est aussi un thème que vous trouvez dans la Gilgamesh, que vous trouvez dans Moïse, etc. Mais il est sauvé par une panthère qu'il tète, élevé par un berger, et par la suite il est pris par des hommes qui s'occupent de l'éduquer. Là aussi ça vous dit, l'homme qui sort de l'animalité, et qui est pris en charge par des bergers qui s'occupent de lui comme ils s'occupent de leur brebis et qui l'éduquent finalement. Quand il devint adulte, il livre de nombreuses guerres. Mon chasseur, plus exactement, c'est quelqu'un qui manie l'arc. Enfin, il s'empare d'une ville nommée Kutaraba, il y construit son palais et prend Terah, fils de Nahor, voyez comment ça, on raconte des histoires, pour vizir. Il étudie l'astronomie, prétend à la divinisation,
édifie de nombreuses statues à son image et les distribue à ses sujets pour que ceux-ci lui vouent un culte. Hein, idolâtrie. Le thème de l'idolâtrie qui revient très fréquemment, hein, surtout dans l'islam et dans la tradition juive. Un jour, il entend des voix et reçoit des révélations en rêve, lui annonçant sous diverses formes que, dans le futur, un homme nommé Ibrahim, se dressera contre lui et s'opposera au culte idolâtre qu'il a institué. On va vous mettre deux champions, le champion de l'idolâtrie et le champion du monothéisme, l'un contre l'autre. Il interroge les astronomes, puisque la Mésopotamie est le terrain des astronomes, et ceux qui interprètent les songes. Et ceux-ci, par l'intermédiaire du ministre Terach, confirment la prédiction. Donc viendra un certain Abraham. On va raconter la même chose avec Moïse, hein, le Midrashim. En fait, c'est la femme de Terach qui met Abraham au monde. Donc c'est le grand vizir qui introduit, si vous voulez, le ver dans le fruit. Il est caché dans une grotte, hors de portée de Nemrod, mais quand il grandit et parvient tout seul à la connaissance de la foi en un Dieu unique, il quitte la grotte, quitte le secret, il reste secret comme Moïse resta secret pendant un certain temps, et puis alors il s'exprime au-dessus, en public, au-dessus de tous. Il quitta la grotte pour convaincre le monarque de son peuple, justement le Némanque. C'est alors que se produit la confrontation qui s'exprime par des débats sans fin, dans lesquels Abraham essaie de prouver au roi la vanité du paganisme. Et vous voyez ce qui est mis en évidence. Dans cet ordre d'idées, on raconte aussi le bris des statues par Abraham. Et cette histoire que l'on retrouve dans le Midrashim chez les Juifs. Les miracles et les prodiges qu'il accomplit dans le palais de Nemrod et les tentatives de ce dernier pour se débarrasser d'Abraham en le jetant en prison, puis dans une fournaise ardente. Ces tentatives échouent. Nemrod essaye alors de combattre le dieu de son adversaire en tirant des flèches vers le ciel, juchées sur les ailes d'un aigle. Finalement, il est tué par un moustique qui pénètre dans son cerveau. Et voyez l'idée, c'est qu'il est tué finalement par rien du tout. Sa grandeur ne signifie rien. Et la grandeur de l'idolâtrie n'est rien du tout. Il faut remarquer la diversité des sources qui ont inspiré, semble-t-il, les histoires de la vie de Nemrod. Nous retiendrons les épisodes qui possèdent un fondement solide dans le Coran, c'est-à-dire ceux qui concernent la confrontation de Nemrod et d'Abraham. La relation entre ces deux personnages y est très détaillée. En vérité, le Coran ne rappelle pas le nom Nemrod, qui est entré dans la littérature musulmane par le biais de sources hébraïques, c'est-à-dire la Bible ici. Mais on y trouve différents passages traitant des controverses qui opposent Abraham au roi ou au peuple à propos de son refus de l'idolâtrie et mentionnant le fait qu'il fut jeté dans une fournaise. Là aussi, c'est un thème que vous allez encore revoir avec Daniel et les enfants jetés dans la fournaise. N'as-tu pas vu celui qui a discuté avec Abraham au sujet de son Seigneur parce que Dieu lui avait donné la royauté? Abraham lui dit: « Mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir. » Il répondit: « C'est moi qui fais vivre et qui fais mourir. » Abraham dit: « Dieu fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident, puisque tu fais vivre et mourir. » Celui qui ne croyait pas fut confondu. Une histoire qui est racontée dans le Coran. Les affrontements entre Abraham et son peuple et les homélies qu'Abraham adresse à ceux qui se prosternent devant Nemrod reviennent dans de nombreux passages du Coran. Et alors, il cite quelques passages. Dans le premier passage, il est raconté qu'Abraham détruit toutes les statues, hormis la plus grande d'entre elles. C'est ce que je vous avais donné tout à l'heure comme exemple. Et quand on lui demande qui a fait cela, il désigne la grande idole qui est restée entière et l'accuse d'avoir brisé les autres. C'est ainsi qu'il montre à son peuple combien sa croyance païenne est ridicule. Dans le second passage, on raconte qu'Abraham demande aux statues pourquoi elles ne parlent pas, et qu'ensuite il lève la main sur elles pour les détruire. à la suite de la destruction des idoles, le Coran raconte, hein, et c'est toujours pour exprimer donc, le monothéisme strict hein, dans l'islam, que le peuple exige qu'Abraham soit jeté dans une fournaise. Ils dirent, brûlez-le et secourez vos dieux, si vous en êtes capables. Nous dîmes, ô feu, soit pour Abraham fraîcheur et paix. Dans la littérature musulmane post-coranique, l'épisode de la fournaise a été développé. On lui a adjoint divers détails anecdotiques, vous voyez, on ajoute toujours, dont on trouve également une partie dans les commentaires hébraïques. Voici l'essentiel de cette histoire. Abraham est jeté dans la fournaise, mais le feu ne le brûle pas. Némrod et ses ministres cherchent le moyen d'arriver à ce qu'il se consume malgré tout. Satan leur conseille de fabriquer une fronde sur laquelle ils placeront Abraham et le projetteront ainsi de loin, tout droit dans les flammes. Mais ce procédé ne réussit pas. Les anges interviennent en faveur d'Abraham et ébranlent le ciel et la terre pour le secourir. Cependant, celui-ci n'est sauvé que par son propre mérite. Il ne recule pas devant la fronde et refuse de renier sa foi en Dieu malgré les tentatives faites pour l'en persuader. Le martyr, l'idée du martyr. Il refuse aussi de recevoir l'aide des anges et insiste tant et plus sur l'idée qu'il ne sera délivré que par une intervention divine, la foi en Dieu. Aussi, c'est grâce à sa foi absolue qu'il est sauvé. En effet, Dieu ordonne au feu de se refroidir pour ne pas le brûler. Mais qu'est-ce qu'il faut tirer de tout cela? Il faut tirer que, justement, Abraham est devenu une figure. Figure de la foi, figure de... Oui, de la foi dans le seul et unique Dieu, figure aussi de la persévérance dans cette foi. Et le champion de la foi monothéiste contre toute idolâtrie. Vous voyez comment une figure travaille. Et ce qu'on n'a pas trouvé dans les textes, on va le redire à partir de son expérience ou à partir de sa foi, la foi musulmane, la foi juive. Mais le texte ne nous raconte pas toutes ces histoires. Donc tout cela a été rajouté par la tradition ultérieure. Et cette tradition ultérieure, même dans le judaïsme, n'a jamais été incorporée dans la Bible. La Bible est beaucoup plus sobre. Et elle est beaucoup plus énigmatique aussi. Elle ne résout pas tous les problèmes. L'imaginaire essaie de résoudre les problèmes. Mais la Bible, non. La Bible pose des questions. Et la Bible demande des réactions personnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Qu'est-ce que c'est qu'un désir? Promesse ou convoitise? Convoitise, je prends, je mets la main dessus. Promesse, je le reçois comme un don. Et ce que j'ai reçu comme un don, je ne vais pas le prendre. Si c'est un don, je le donne. Mais oui, c'est important. Parce que c'est une idée tout à fait fondamentale du livre. Et donc, on veut montrer à travers tous ces détails que Abraham doit bien conserver la vie parce qu'il doit réaliser une promesse, et que cette promesse, il est toujours en train de la recevoir, et que de temps en temps, il va vouloir mettre la main dessus. Et quand il met la main dessus, quand il commence à convoiter, ben ça ne va plus. Et donc, c'est cette idée sous-jacente qui est là derrière les textes et qui le dit à travers des récits qui ne sont pas meilleurs, qui ne sont pas plus mauvais, qui ne sont pas plus moraux que ce qu'on vit dans le monde d'aujourd'hui, mais qui font réfléchir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas encore dans la morale évangélique. Et n'allons pas juger ces textes à partir de l'évangile. Mais ils nous y acheminent. Au temps d'Amraphel, roi de Shinar, ah tiens, voilà qu'on retrouve Shinar, c'est-à-dire la Mésopotamie. Amraphel, c'est le peuple qui est brouillard, le peuple brouillard. Roi de Shinar, d'Arioch, roi de Lazare, de Kedorlaomer, roi des Lames et de Tidéal, roi des Goyim. Les Goyim, ce sont les nations. Ceux-ci firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorre, Sinéav, roi d'Adma, Shimeever, roi de Tseboïm, et le roi Béla, Setsoa. On ne sait pas qui sont tous ces rois. Voilà, bon, autant d'Amraphel, roi de Chinéa, d'Arioc, roi de Lassa, de Kedorlaomer, roi des Lames, de Tidéal, roi des Goïm, quatre rois, quatre grands rois, qui font allusion à des réalités géographiques, des pays. Ceux-ci firent la guerre contre Béra, roi Sodome, Birsha, roi de Gomorre, Adma, Tseboïm, Tsoar, ce sont toute la région qui sont maintenant dans la mer Morte ou en dessous de la mer Morte. Quatre rois contre cinq. Est-ce que ce sont de grands rois, de grands royaumes? J'en sais rien. Ceux, les rois de Sodome, Gomorre, etc., ce sont des petites villes. On n'en sait rien. On a essayé de voir, comme vous le savez peut-être, s'il n'y avait pas des restes de villes en dessous de la mer Morte, en dessous de la partie sud. Mais c'est pratiquement pas possible de fouiller en dessous de l'eau, tellement l'eau est pesante. Alors, peut-être qu'ils vont essayer de faire le vide dans le sud de la mer Morte pour voir si de fait il y a des restes, mais conservés par le sel peut-être. Parce que la mer Morte, c'est pas seulement la mer Morte qui est salée, c'est tout le territoire environnant qui est salé. C'est un gros bloc de sel autour de la mer Morte. De quand ça date ? Certainement d'avant tout ce qu'on raconte ici. Ces derniers, mais ici on nous raconte un peu comme dans l'Apocalypse, hein, une sorte de bataille de type. Les gens se bagarrent les uns contre les autres dans la plaine. On vient de partout pour attaquer cette petite ville où se trouve Lot précisément. On m'a demandé à qui était le terrain à ce moment-là. Mais ce qui n'était pas les villes et les cultures autour des villes, c'est à tout le monde. C'est aux nomades. Il n'y a pas de possession de territoire à proprement parler, sauf les villes et les champs autour. Donc ce sont des nomades. Ces nomades nomadisent là où il y a place. Mais à la bordure des sédentaires qui sont les Cananéens ou les Périsites. Ces derniers, les cinq là en question, se liguèrent dans la vallée de Sidim, c'est la mer de sel, Yam HaMelach, la mer de sel, comme on l'appelle en hébreu, la mer morte. 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer. Mais la 13e année, ils se révoltèrent. 12 ans, c'est quand même un maximum. Et la 14e année, arrivèrent Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. Ils bâtirent les Rephaïm, ce sont des ombres, à Ashterot-Karnaïm, les Uzim à Ham, les Emim dans la plaine de Kiryataïm, les Horites dans la montagne de Seir jusqu'à El Paran, qui est à la limite du désert. Ils firent un mouvement tournant et vinrent à la source du jugement, c'est Kadesh. Ils bâtirent tout le territoire des Amalécites et aussi les Amorites qui habitent Hatsatson Tamar. Donc c'est tout ça se situe précisément dans la région du Negev. Maintenant, ça fait probablement allusion à des sites qui ont existé. On essaye bien aujourd'hui de retrouver des ruines d'anciennes villes dans le Negev. Bon, on n'a pas encore trouvé grand-chose. Alors, le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, le roi de Béla, c'est de Soa, s'ébranlèrent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, donc à l'endroit supposé de la mer Morte. Contre Kedorlaomer, roi des Lames, Tidéal, roi des Goïm, Amraphel, roi des Chinéa, et Arioc, roi des Lazars. 4 rois contre 5. Or, la vallée de Sidim était pleine de puits de bitume. C'est vrai, il y a des sources. Et on en fait encore soit des produits de beauté aujourd'hui, soit des masques de beauté.
Avec
soit
le bitume.
Le traitement, oui. Ça s'appelle le bitume, c'est cette.
C'est pas les puits de pétrole.
Pardon ?
C'est pas les puits de pétrole.
La région de Sable, Werner Keller, là, il parle de, de cela.
Oui, oui.
Pétrole pour 15 ans pour Israël.
Oui, mais ce n'est pas, du pétrole, tu sais, ici, c'est cette boue noire qui vient des sources d'eau chaude, hein, autour de la mer Morte. Et on en fait aussi des traitements des thérapeutiques contre la psoriasis et autres.
La thérapie.
Autres dermatoses. Or, la vallée de Sidim était pleine de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorre y tombèrent. Et le reste se réfugia dans la montagne. Si on vous dit ça, c'est que, au fond, c'est la nature qui se venge. On n'a même pas besoin de combattre. On tombe dans les bitumes et on se sauve dans la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres et s'en allèrent. C'est à ça qu'on voulait revenir. Ils prirent aussi Lot et ses biens. Mais il a choisi le meilleur, mais attention, ça peut devenir le pire. Ils prirent aussi Lot et ses biens, le neveu d'Abraham, si vous vous en souvenez plus, on vous le dit, et ils s'en allèrent. Il habitait Sodome. On dirait qu'il est devenu sédentaire, le gars. Un rescapé, c'est toujours comme ça dans les histoires, hein. Un rescapé vint informer Abraham l'Hébreu. L'Hébreu, curieux, hein. Abraham l'Hébreu, le nomade, ivri, hein, le passeur, le nomade. Un rescapé vint informer Abraham l'Hébreu. C'est un texte qui vient probablement d'ailleurs, hein, jusqu'ici. On nous a parlé d'Abraham comme quelqu'un de tout à fait connu. Maintenant, on vous dit Abraham l'Hébreu, ivri, qui demeurait aux chênes de l'Amorite, Mambré, frère d'Eshcol et d'Aner. Ils étaient les alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent, son frère littéralement, si on veut prendre le texte tel qu'il est, quand Abraham apprit que son parent, son frère, était emmené captif, il leva ses partisans nés dans sa maison au nombre de 318. On a essayé de voir ce que 318 pouvait signifier, mais on n'est pas arrivé à une solution tout à fait plausible. Au nombre de 318, et mena la poursuite jusqu'à Dan. Il va haut, hein. Dan se trouve tout à fait au nord d'Israël. Il les assaillit de nuit, lui et ses gens. Il les battit, les poursuivit jusqu'à Hoba, au nord de Damas. Voyez quel raid formidable. Extraordinaire. Lui, avec quelques 318 hommes, eh ben, oui. Il reprit tous les biens, et aussi son parent, Lot, et ses biens, son frère Lot, et ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Et on ne sait pas très bien.
Hein. Les biens, pas seulement
les femmes. Les biens, les femmes, les gens, personnels. Donc voilà un ancien texte, on ne voit pas très bien d'où ça vient, il y a différentes hypothèses aussi à ce sujet, mais d'une ancienne conflagration là dans le territoire de la mer Morte, aux environs de la mer Morte, hein, une bataille de différents rois. Mais l'important c'est de Lot. Lot a été pris dans toute affaire, et Abraham, vous voyez quelle magnanimité, non seulement il lui laisse choisir, mais quand il est pris, hein, il va avec ses hommes, et il va ramener Lot. On peut mettre en évidence cette générosité, cette magnanimité d'Abraham. Quand Abraham revint, après avoir battu Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Chave. C'est la vallée du roi. Chave veut dire rien. Chave, un rien. Un Shoah, un Shouya, on veut dire rien du tout. C'est la vallée du roi. C'est un autre nom de cette vallée. Là aussi, c'est un tout autre texte. Est-ce que c'est le même auteur que ce qui précède? C'est possible. Enfin, on va voir pourquoi c'est raconté comme ça. La vallée de Chave. Melchizedek. Ah. Melchizedek.
Mon roi, justice. Quand on dit mon roi, c'est mon Dieu. Souvent, roi, hein, c'est un symbole de la divinité. Melchizedek, mon roi et justice. Roi de Chalem. Je ne sais pas très bien où c'est Chalem, mais la tradition a généralement identifié ce Chalem avec Jérusalem. Ir à Shalom. Chalem, c'est la même racine que Shalom. Le grand Chelem, hein, tous les plis, l'intégralité des plis. Roi de Chalem. Apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Le Dieu très haut, c'est El Elyon, le Dieu qui est adoré dans tout le Proche-Orient ancien comme la divinité. Donc c'est païen comme Dieu très haut, là, la première. Ce titre de Dieu très haut, le Dieu des hauteurs, hein, c'est un Dieu païen. Il prononça cette bénédiction. Nous avons vu des malédictions. Maintenant, voilà une bénédiction qui est prononcée par un prêtre du Dieu très haut, un prêtre païen, qui vient apporter du pain et du vin. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui cria ciel et terre. On dirait qu'il a lu le début de la Genèse. Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui cria ciel et terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. C'est comme s'il y avait une alliance. Hein, le Seigneur qui a créé ciel et terre et qui a aidé Abraham, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Voilà un beau texte de bénédiction qui ne fait pas mentir le début du chapitre 12e. Hein? Que ton nom soit bénédiction. Et alors ici,